53%, c'est-à-dire davantage que la majorité. 53%, c'est le nombre de Français désormais favorables à la gestation pour autrui pour les couples homosexuels. Chiffre issu d'un sondage de l'IFOP de juin dernier qui montre qu'en France, 8 ans après le mariage pour tous, les mentalités évoluent sur ces questions sociétales. Les mentalités évoluent, mais la loi ne change pas. La gestation pour autrui restant un acte illégal sur le sol français. Un journaliste et animateur, mais surtout journaliste, c'est ce qui nous intéresse, a décidé de raconter et de médiatiser son parcours GPA. Un exemple qu'on peut être pour convaincre ceux qui y sont encore opposés, mais également les politiques. On va lui poser la question. Bonjour Christophe Beaugrand.
Bonjour Philippe Bandel.
Vous êtes journaliste sur LCI, animateur sur TF1. Le public vous connaît pour votre travail sur ces chaînes du groupe. Vous publiez Fils à papa, avec un S à papa, pour dire qu'il y en a deux chez
Blond. Exactement, c'est important.
Livre dans lequel vous dévoilez toutes les étapes de votre parcours pour avoir eu recours à une mère porteuse aux États-Unis. Nous ne sommes pas étonnés de voir partager ce récit intime dans ce livre, parce que déjà, vous avez toujours tenu à médiatiser, si j'ose dire, votre vie personnelle. Pour quelle raison?
Alors oui, ça c'est vraiment volontaire de ma part d'avoir parlé de mon mariage, par exemple, avec Ghislain, mon mari, il y a 3 ans maintenant, et notre parentalité, parce que c'est très important, à mon sens, de faire avancer les mentalités et la société par de la visibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'homophobie qui existe en France. On l'a vu avec le drame de Montgeron, avec
cette agression, ce
jeune homme qui s'est fait casser la figure, qui s'est fait tabasser très violemment. Et moi, je suis convaincu que pour faire avancer la société, il faut montrer des exemples, avec des guillemets, de normalité de nos couples, de nos familles, ce qui montre aussi que finalement, on fait partie de la société. C'est grâce à des images positives, ce que j'essaye de renvoyer dans ce livre et dans ma vie de tous les jours aussi, via les réseaux sociaux. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses et faire reculer l'homophobie.
Alors là, on va passer de la normalité à l'illégalité. Que dit la loi française aujourd'hui concernant la GPA, la gestation pour autrui, c'est-à-dire le fait de demander à une femme de porter un enfant qu'elle ne va pas garder contre ou pas rémunération?
Alors effectivement, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas possible en France. En revanche, il n'est absolument pas illégal pour un couple français hétérosexuel ou homosexuel d'aller dans un pays où c'est légalisé, encadré et autorisé, notamment nous, les États-Unis et le Canada. Pour les couples homosexuels, ce sont les deux seuls pays qui sont accessibles pour pouvoir faire les choses de manière légale et encadrée. Et ensuite, votre enfant est reconnu en France. Donc il n'y a pas, je n'ai pas enfreint la loi, entre guillemets. C'est parce que je lis parfois des gens sur les réseaux sociaux qui disent c'est scandaleux, vous avez enfreint la loi. Pas du tout. Il n'est nullement interdit pour un couple français d'avoir recours à la GPA dans un pays où c'est encadré. Et en l'occurrence, pour les États-Unis et le Canada, il y a ce que l'on appelle le cadre d'une GPA éthique, c'est-à-dire où il y a une assurance juridique de respect de la femme. Ce qui est le principal, c'est la donneuse d'ovocytes et la mère porteuse, parce qu'il y a deux femmes qui rentrent en ligne de compte, qui décident de tout dans toutes les étapes de ce processus et de cette aventure. C'est elles qui sélectionnent et qui décident avec quel couple elles ont envie de mener à bien cette aventure-là. Elles sont sélectionnées sur leurs moyens financiers, par exemple. Ça ne peut pas être des femmes pauvres, entre guillemets, ou dans la misère, pour que l'argent ne soit pas une motivation. Donc moi, le livre, vous disiez tout à l'heure dans votre intro que c'était pour convaincre. C'est pas pour convaincre, moi. C'est pour expliquer, pour montrer un exemple par rapport à tout ce qui se dit, toutes les fake news qui sont dites sur les réseaux sociaux, de donner un exemple de famille et voir comment ça se passe vraiment concrètement.
Juste un mot, puisque vous parlez de concret, ce sont deux femmes différentes.
Oui, ça c'est très important. Il y a une trentaine d'années de recul aux États-Unis sur la gestation pour autrui. C'est très encadré. Il y a beaucoup de garde-fous. Hein. C'est encadré juridiquement, psychologiquement, etc. Et effectivement, pour pas qu'il n'y ait d'attachement ou moins d'attachement de la femme qui va porter ce bébé, elle n'a aucun lien génétique avec celui-ci. Voilà, ça fait partie des choses qui sont... C'est la règle là-bas aux États-Unis.
L'enfant qui naît n'a pas l'ADN de la maman qui lui donne la vie.
Exactement. Et la personne qui lui donne la vie, ça n'est pas la maman. En fait, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre et de... j'aime pas trop ces termes, mais de déconstruire. C'est simplement d'expliquer qu'il faut décorréler, selon moi, la génétique de la parentalité. C'est-à-dire que des parents, ce n'est pas un ovocyte ou une goutte de sperme. C'est pas vrai. Des parents, c'est celui qui va ou celle, pour des couples lesbiens ou des couples hétérosexuels, c'est celui ou celle qui va se lever au milieu de la nuit pour sécher les larmes de son enfant. C'est ça la parentalité, qui va lui apprendre à marcher, qui va lui chanter des chansons. Une goutte de sperme ou un ovocyte, c'est de la génétique. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'effectivement, on peut séparer la génétique de la parentalité. Nous sommes parents à part entière, les deux papas de Valentin. Et d'ailleurs, sur son acte de naissance aussi.
Voilà, je précise qu'il y a plein de gens qui ne pensent pas comme vous, mais je suis content de vous l'entendre.
Je donne mon avis, voilà. et mon vécu.
Ce qui nous intéresse ici, vous êtes journaliste, vous avez la carte de presse, Christophe Beaugrand.
Oui, bien sûr, 88 452 depuis 99, ça ne me rajeunit pas.
À TF1, que pense-t-il de tout cela? Avoir quelqu'un de leur antenne qui présente les journaux du matin, le samedi et le dimanche, qui fait campagne, si j'ose dire, pour la GPA?
Alors, je ne fais pas campagne pour la GPA, ça n'aurait pas de sens de dire ça, parce qu'il n'y a pas de campagne à faire. Moi, je ne suis pas dans la revendication, je ne dis pas...
Ma question était, que pense TF1 de tout cela?
D'accord,
en fait
mais c'est juste... J'ai compris. Parce que ça ne correspondait pas à la réalité. Non, moi je suis quelqu'un d'engagé, ils le savent, on ne m'a jamais fait aucune réflexion sur aucun de mes engagements, qu'il soit par rapport à mon combat contre l'homophobie. Pour tout vous dire, j'ai envoyé le livre évidemment à la direction de TF1, j'ai même reçu des messages de félicitations de tous les gens de TF1 qui me disent bravo de continuer à faire avancer la société. Eh bien oui, je suis convaincu que des témoignages de vie peuvent contribuer à faire reculer, je le disais tout à l'heure, l'homophobie, pour moi c'est très important. Après, il n'y a pas d'engagement politique on peut dire que s'engager pour la société, c'est politique d'une certaine manière. Mais il n'y a pas d'engagement politique, je ne revendique rien. Moi, j'explique simplement à quoi ressemble ma famille, à quoi ressemblent nos familles, parce qu'il y en a quand même un certain nombre en France.
Vous n'ignorez pas qu'il y aura en mai une élection présidentielle. Vous savez que les questions de société font souvent partie du programme des candidats. Vous publiez ce livre quelques mois avant le grand retour de la campagne.
Alors, j'ai pas à calculer. Hein. Voilà.
Est-ce que vous espérez que cette histoire va sensibiliser certains candidats?
Alors non, je ne pense pas que... Pour tout vous dire, je pense que c'est important dans le débat public pour faire avancer les mentalités et la société, mais plus pour faire avancer l'opinion publique, parce que je pense que ça n'est pas une bonne idée de mettre cette question de la gestation pour autrui dans le débat public en France aujourd'hui, parce que le débat public est tellement hystérique et hystérisé sur tout et n'importe quoi que je pense que ça peut plus abîmer les familles qu'autre chose. Et je pense que d'ailleurs, ça n'est pas forcément une revendication qu'aucun homme politique porte aujourd'hui. Alors vous le disiez, ça a beaucoup avancé dans la société. Vous parliez du sondage, 53% des Français sont
sondage
pour,
IFOP de juin.
Pour les couples hétérosexuels et 67% pour les couples homosexuels, pardon, et 67% pour les couples homosexuels. Donc, les choses avancent.
Hétérosexuels, 67.
Voilà, 67 pour les hétérosexuels et 53 pour les homosexuels, pardonnez-moi.
On y arrive.
Mais donc ça montre que les choses avancent dans l'opinion publique. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément presser les choses plus que ça, et je ne suis pas persuadé qu'un débat présidentiel soit idéal. C'est un moment où, effectivement, il y a beaucoup d'hystérie un peu partout. Je vois qu'on... Il y a beaucoup de choses un peu nauséabondes qui se disent. Donc je pense que ce n'est pas la peine de mettre ce débat sur la place publique. C'est pas le moment, à mon avis.
Vous restez avec nous, Christophe Beaugrand. On a encore plein de questions à vous poser autour de ce livre « Fils à papa », l'incroyable histoire de deux garçons qui voulaient devenir père. C'est plus que le vouloir, vous l'êtes devenu.
Ouais.
Culture Média continue, à tout de suite. Compagnie de Christophe Beaugrand qui publie « Fils à papa » avec un S, et publié chez Plon, je ne l'ai pas encore dit. Parlez de votre parcours pour avoir un enfant avec votre mari. On parle de GPA, illégal dans sa forme stricte en France, autorisée aux États-Unis, mais les enfants qui naissent aux États-Unis de GPA sont reconnus par l'État français.
Pour être précis, il y a même eu une circulaire de Christiane Taubira en 2013 dans la foulée du mariage pour tous qui permet à tous les parents et surtout les enfants nés de GPA quand ils reviennent sur le sol français d'avoir les papiers. On a eu la carte d'identité, le passeport de Valentin en un mois et demi, deux mois. Voilà, des délais classiques pour avoir des papiers.
Alors là, on était en 2013 avec Christiane Taubira. Nous voici maintenant transportés dans votre livre. On est en 2017 et vous racontez que l'idée de cette gestation pour autrui, vous l'élaborez en 2017, grâce à un certain François Fillon. Vous êtes devant votre télévision et vous assistez au débat de la primaire pour la droite et votre peur que François Fillon devienne le prochain président de la France.
Le mariage pour tous a perturbé ce que j'appelle le droit de la filiation. Et moi, je veux remettre de l'ordre dans le droit de la filiation. C'est-à-dire que je veux inscrire dans le droit de la filiation un principe naturel, c'est qu'un homme, un enfant, est toujours le fruit d'un homme et d'une femme. Et je ne veux pas que cette filiation disparaissent en cas d'adoption.
Vos craintes, c'était lesquelles à ce moment-là?
Alors à ce moment-là, effectivement...
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se disent « il a raison ».
On savait que François Fillon, s'il était choisi, s'il gagnait la primaire, à l'époque, tout indiquait qu'il allait être élu président de la République. Or, effectivement, avec les changements de filiation qu'il voulait faire, il devenait impossible d'adopter, un enfant pour un couple homosexuel. Et du coup, également de reconnaître un enfant né de GPA à l'étranger. Je respecte l'opinion de Monsieur Fillon, mais du coup, nous, ça nous a donné un petit coup de booster. J'attendais que mon mari soit prêt, parce qu'on a une petite différence d'âge. Il a 12 ans de moins que moi. Je voulais pas le presser. Moi, ça fait très longtemps que j'avais envie de devenir père. Ghislain m'a dit, après qu'on ait vu cette interview, il était allié à la Manif pour tous et au Sens commun à l'époque, hein, François Fillon. Il m'a dit, faut y aller là, il faut lancer les choses, etc. Donc je remercie, effectivement, c'est le titre d'un chapitre, c'est un peu le coup de pied de l'âne, mais je remercie François Fillon, parce que sans lui, on n'aurait peut-être pas lancé les choses aussi vite. Après, on connaît la suite, il n'a finalement pas été élu, etc. Sur le fond, en tout cas, par rapport à ce qu'il disait, en fait, la problématique est qu'on peut faire comme si les familles homoparentales n'existaient pas, on peut se cacher les yeux, se voiler la face, faire la politique de l'autruche. Or, ces enfants, ils existent. Et je pense que l'honneur de la politique, c'est aussi de gérer le réel, et pas simplement le réel tel qu'on voudrait qu'il soit ou tel qu'on voudrait qu'il ait été dans le passé. La société évolue, et je pense qu'il est plus intéressant et surtout plus sécurisant pour un enfant que ses deux parents soient reconnus, comme ça a pu être fait pour mon petit garçon, par exemple.
Alors, vous décidez de vous lancer dans cette aventure, vous ne savez pas quoi faire, et comme beaucoup de gens, vous faites des recherches sur Internet.
Ah oui.
Que découvrez-vous de bien, et aussi les arnaques?
Alors, on trouve tout, hein. Il y a le meilleur et le pire, comme on dit, et c'est vrai que quand on se met à chercher sur Internet, on découvre qu'il existe, et ça c'est absolument ignoble, et je le dénonce dans le livre, et je le dénonce à votre micro ici, qu'il y a des filières qui existent, notamment dans les pays de l'Est, etc., où en principe la GPA pour les couples homosexuels n'est pas possible, par exemple.
Mais... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais donc on dit que les arnaques sur Internet, on ne se rend pas compte que c'est une arnaque. Mais là, dès la page de garde, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a des choses, c'est-à-dire vous mettez votre mail et après on vous poursuit de mail en vous expliquant que vous allez avoir un petit enfant, que ça va être formidable, etc., que vous n'êtes pas c'est vraiment, on est dans quelque chose qui est de l'ordre sans doute de l'escroquerie, et surtout pire, du trafic. C'est-à-dire que on sait qu'en un certain nombre de pays, j'ai enquêté sur ces questions-là, j'ai beaucoup cherché, dans un certain nombre de pays il y a des femmes qui sont plus ou moins contraintes à faire des GPA, qui font parfois vivre toute une famille comme ça, qui en soit leur quatrième ou cinquième enfant. Et il existe aussi le cadre d'une GPA éthique aux États-Unis et au Canada qui se fait dans le respect total de la femme, avec la femme qui choisit, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est contrainte à aucun moment, qui décide de tout dans ce processus, qui ne le fait pas pour des raisons financières, parce que c'est une personne qui n'est pas dans le besoin, qui n'est pas dans la misère, etc. Donc c'est ça qui est important. Moi, je rejoins les gens qui me disent qu'il y a des trafics et que c'est immonde. Je vais dire oui, évidemment, je suis totalement d'accord avec eux. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut mettre en valeur et expliquer qu'il existe aussi des possibilités de faire les choses très correctement dans le respect de la femme. C'est surtout ça, c'était la condition sine qua non pour nous. Jamais on aurait mené cette aventure à bien si on n'avait pas été certain de ce qui allait se passer.
Je vais un petit peu sauter des étapes quand même, mais quand même dire que vous avez fait appel à un autre homme qui a vécu cette aventure quelques années plus tôt. Le hasard fait qu'il était notre invité hier et que son émission a très bien marché, son téléfilm qui raconte sa vie, c'est Jarry l'humoriste.
Oui.
Vous vous rendez compte avec lui que la GPA, c'est un parcours du combattant. Comment ça se passe avec lui? Il vous met en relation avec une femme, c'est bien ça?
Oui, en fait, il a eu un petit garçon, une petite fille, grâce à une mère porteuse aux États-Unis avec son compagnon, et il nous a expliqué, moi je connaissais Jarry depuis un moment, on avait travaillé ensemble sur une émission au moment de la naissance de ses jumeaux. Il a été obligé de partir en catastrophe parce qu'ils sont nés un peu en avance, et du coup, il nous a raconté son parcours, qui est effectivement long, compliqué. Il y a des tests psychologiques pour vous valider en tant que parent d'intention, pour être sûr de votre projet, que vous êtes bien dans vos baskets. Il y a tout un tas de choses c'est ce que je disais tout à l'heure, sont des garde-fous en fait pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Il y a des avocats, il y a des assurances, il y a des agences qui encadrent tout ça, et qui vous mettent en contact avec des cliniques de fécondation in vitro, avec des donneuses d'ovocytes, avec des mères porteuses. Donc c'est pas quelque chose, on ne clique pas sur un bouton sur Internet pour commander un enfant, comme je le lis parfois, ça ne se passe pas comme ça du tout.
Je saute là encore des étapes, et vous aussi, en revanche, vous devez toutes les passer.
Oui, je vous confirme, ça dure à peu près 2 ans, nous ça a duré 2 ans, ça peut durer 2 ans et demi, 3 ans.
2 ans qui vous amènent sur la route de Whitney, votre mère porteuse, que l'on voit en photographie dans le livre Entre vous deux. Qui est-elle?
Whitney est une femme extraordinaire qu'on a eu la chance de rencontrer, qui rêvait depuis des années d'aider une famille. Elle a eu 3 enfants. Elle sait qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de fonder un foyer et une famille. Je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent pensent la même chose, parce qu'avoir un enfant et fonder une famille, c'est sans doute ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et elle avait envie d'aider une famille à le devenir. Et effectivement, on s'est rencontrés, on a eu un feeling, on a discuté par Skype, et depuis, là, notre petit garçon va avoir 2 ans dans un peu moins d'un mois. Et depuis, c'est devenu plus qu'une amie, c'est quelqu'un de la famille. On se parle tout le temps, on a des conversations WhatsApp, on se fait des Skype régulièrement.
La question que tout le monde se pose, et comme vous êtes transparent, je sais que vous ne l'éluderez pas, combien cela vous a coûté?
Et je ne l'élude pas dans le livre, hein, parce que ça fait partie de toutes les étapes que je raconte. Oui, c'est effectivement extrêmement onéreux, et je suis totalement conscient d'être privilégié d'avoir pu mener à bien ce projet. C'est entre 100 et 150 000 euros. Moi, ça a coûté à peu près 120 000 euros, sachant que l'essentiel du coût, et c'est ça qui est très important à faire comprendre, est lié aux frais médicaux. Car aux États-Unis, la médecine, c'est payant, c'est extrêmement cher, mais c'est lié. C'est pas lié à la GPA, c'est lié à la médecine.
Ouais. C'est-à-dire que si vous accouchez, il n'y a pas la sécu comme ici. Hein.
Si vous accouchez aux États-Unis, par exemple, et si vous n'avez pas d'assurance, c'est à peu près 20 000 dollars un accouchement. En France, on n'est pas du tout conscient de ce que coûte la santé, puisque c'est la solidarité nationale qui la prend en charge. Alors on la paye d'une manière ou d'une autre, mais ça n'est pas direct. Là, évidemment, tout est payé et facturé. Donc effectivement, c'est un peu vertigineux, c'est un projet qui est tellement... C'est un projet de vie, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui a changé notre vie.
Ça s'appelle « Fils à papa » avec un S à papa, Christophe Beaugrand, l'incroyable histoire de deux garçons qui voulaient devenir pères, c'est chez Plon. Et on vous retrouve sur la matinale d'LCI, 6-9, le samedi et le dimanche.
Exactement, pour le week-end, si vous vous levez tôt, n'hésitez pas, on est là, nous.
Merci beaucoup, Christophe Beaugrand, d'avoir été avec nous en direct dans